Est-ce que vous connaissez ça, l'expression, le mot décalage horaire?
Oui.
Décalage horaire,
oui.
Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui est sur le même, dans le même fuseau horaire. Présentement, il est 14h43, puis il y a des places sur la planète où c'est...
Il est une hauteur.
Ouais, puis... pardon, il y en a qui sont en retard sur nous autres.
Oui.
Oui, absolument.
En retard de maximum 24 heures.
Je suis d'accord.
Alors, vous allez écouter le prochain reportage d'Elisabeth, et je pense qu'on va inventer une nouvelle expression. Il y a le décalage horaire, ça, il n'y a rien de mal là-dedans, mais il y a aussi un décalage annuel.
Ah.
Le décalage annuel.
Okay. Pas pire, hein? Oui, c'est vrai, c'est bien.
Il y en a qui ne sont pas aux mêmes années, dans les mêmes années que nous. On est en 2020. OK? En 2020, il y a une certaine conception de la société, des relations entre individus, etc., du respect. Tu sais, c'est 2020, il y a eu une évolution. Vous allez écouter ça, là? Il y en a qui sont en décalage annuel, qui sont dans les années, je sais pas moi, 1930, 1920, ou même avant ça, ou 40, 50, et ça se passe. Est-ce que j'ai raison de dire Québec?
Oui, absolument.
C'est pas Montréal. Là.
Au Québec. Ben, en fait, ici à Québec, à Montréal, et éventuellement en Ontario.
Mais notamment ici, oui. À Québec, avec le témoignage que tu as recueilli, il y a vraiment du décalage annuel.
Tu connais Sylvain d'Église pentecôtiste, qui est un courant chrétien évangélique?
Protestant.
Oui.
Oui.
Qui vient de pasteurs américains, entre autres.
C'est assez radical.
C'est assez radical, effectivement.
Ouais.
C'est pas toutes les églises pentecôtistes qui sont à ce niveau ici au Québec, mais c'est un courant qui est de base, oui, assez radical. La personne que je vais vous faire entendre s'appelle Gabriel Nadeau. C'est un jeune homosexuel de 26 ans. Donc, c'est un temps qu'il est très jeune, là.
Ouais.
Gabriel Nadeau faisait partie de l'église pentecôtiste avec ses parents, toute son adolescence, toute son enfance. Et à 12 ans, il a commencé à se rendre compte qu'il y avait des attirances et de l'attirance pour les hommes et qu'il n'y en avait pas du tout pour les femmes. Il en a parlé à ses parents. Je vais le laisser raconter tout ça, mais pour te donner une idée, Sylvain, entre l'âge de 12 ans et 18 ans, Gabriel Nadeau a subi 3 thérapies de conversion. 3 thérapies pour le guérir de son homosexualité.
Et ça, c'est ses parents qui l'ont, membres de l'église pentecôtiste,
oui.
Qui l'ont forcé à subir ça avec, j'imagine, l'accord du prêtre,
oui.
Ou du pasteur.
Ben, disons que la première thérapie, oui, c'est ses parents qui l'ont envoyé là. Les autres thérapies, c'est lui-même, sans dire à personne, qui est allé tellement qu'il se sentait coupable d'être encore homosexuel. Pourquoi on en parle maintenant? C'est que le gouvernement du Québec a discuté hier, en fait, a fait une sortie pour dire qu'il pensait éventuellement à légiférer contre les thérapies de conversion. Il faut savoir qu'au fédéral, Justin Trudeau avait annoncé plusieurs mois auparavant qu'il voulait légiférer contre ça, mais est arrivée la pandémie, la fermeture du Parlement, puis disons que c'est passé au second plan. Mais ici au Québec, Simon-Jeanin Barrette, hier, a ouvert la porte au fait qu'il voulait légiférer contre ça. Moi, j'étais surprise parce que dans ma tête, ça ne doit plus exister tant que ça au Québec, des thérapies de conversion. Il y en a encore. Gabriel, donc, va nous raconter. Vous allez voir qu'il fait beaucoup référence aux exorcismes dans l'extrait. C'est comme ça que ça s'appelait à l'Église pentecôtiste. Des thérapies de conversion, c'était des exorcismes.
Puis prononçait le mot.
Exorcisme. Vous allez l'entendre le dire.
C'est pas juste son interprétation, sa perception à lui.
Non, c'est ça. Parce qu'eux, ils pensent que c'est un démon qui est à l'intérieur de toi qui te rend homosexuel, donc il faut t'enlever le démon.
Il l'exorcisait.
Alors, Gabriel, premièrement, comment as-tu été introduit aux thérapies de conversion?
Ma mère et moi-même, on allait à une église qui est assez extrémiste à Montréal. Je pense pas que c'est le genre de toutes les églises pentecôtistes, mais celle-là est assez intense. Donc, c'est ça. Il y avait des exercices qui se passaient fréquemment, mais pour qu'est-ce qui était de l'homosexualité, c'était des exercices particuliers qu'il fallait faire, là. Donc, c'est la première fois que j'ai su que on pouvait être délivré, entre guillemets, de l'homosexualité, selon eux, par des exercices. Puisque, évidemment, je savais déjà à ce temps-là que j'étais attiré par les gars, j'ai partagé à ma mère que c'était le cas et que je voulais changer, puisque même à cet âge-là, j'étais déjà dégoûté de mon orientation sexuelle. J'étais déjà très homophobe, là, parce que je pense que mes parents me l'avaient inculqué, l'homophobie, dès que j'étais jeune.
C'est drôle d'entendre ça. Hein? Il est homosexuel, mais il est devenu homophobe.
Ouais.
Donc, il se détestait.
Il se détestait.
Et là, on vous le répète, c'est pas en 1930, là.
Non, il y a 12. Écoute, ça fait 14 ans.
L'avait entendu avec sa voix, là. Il est jeune, là.
Ouais.
C'est arrivé à Québec récemment.
Puis lui, là, il y a 26 ans aujourd'hui. Son premier exorcisme a lieu à 12 ans. Fait que ça fait juste 14 ans là, que c'est arrivé. Et d'ailleurs, comment s'est passé ton premier exorcisme à l'âge de 12 ans?
C'était un rendez-vous qu'on avait pris avec le prophète, puisque c'était pas un pasteur pour ce cas-là. Il fallait qu'on l'appelle prophète. Je suis rentré dans la salle. Il y avait 4 diacres qui sont des genres de de personnes qui assistent le prophète. Là, ils m'ont fait boire de l'huile d'olive, qui est une sorte d'eau bénite pour les protestants. Là, ils appellent ça l'huile d'onction. Après ça, là, il a commencé à vraiment me crier dans les oreilles pendant une bonne demi-heure. Pour
il criait quoi exactement?
Il criait à l'esprit qui pensait être en fait en moi, qui pensait que c'était l'homosexualité. Il criait, en fait, il lui ordonnait de partir pour que je puisse devenir hétéro. Il nous avait parlé que oui, il allait sortir, mais ça se peut qu'il revienne. Ça se peut qu'il revienne tenter, puisque quand il sort, ils veulent revenir les démons.
Fait que lui, si jeune, il est tombé sur le fameux film, là, L'Exorciste, tiré du roman de William Peter Blatty. Mm-hmm. Vous avez vu le film?
Le premier, il était assez traumatisé.
Mettons qu'il voyait ce film-là, là, la petite fille, que la tête, il fait 360. Lui, là, en raison des pressions que ces religieux-là ont mis sur lui, tu sais, il pensait que c'était comme lui. Là.
Ben écoute, le type, c'était... il l'a dit dans le premier extrait, il dit à l'église où il allait, il pratiquait des exorcismes assez souvent pour différentes raisons, dont sur l'homosexualité.
Hey, puis je tiens à préciser, parce qu'il l'a dit, hein, parce que là, on a mentionné l'église pentecôtiste. Mais même lui a précisé, c'est Gabriel, oui. C'est ça? Il dit pas toutes les églises pentecôtistes qui sont aussi extrêmes de même. Mais lui est vraiment tombé dans une gang d'extrémistes.
C'était extrême. Et là, vous savez, il y a eu son premier exorcisme, puis là, le prophète, c'est pas un pasteur, c'est un prophète, il faut l'appeler comme ça, il dit, ça se peut qu'il revienne. Là, t'es guéri, mais ça se peut qu'il revienne le démon, là, parce qu'il t'a choisi, là, fait que ça se peut qu'il revienne en toi. Là, Gabriel, lui, il part de là dans l'idée qu'il est rendu hétérosexuel. Peut-être que je vais avoir une rechute, mais essentiellement, je suis hétéro. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Il est sorti de là, puis il y avait encore les mêmes envies puis les mêmes attirances pour les gars. Alors, j'ai demandé comment ça s'est passé après cette première thérapie-là et lors des thérapies subséquentes.
Bien, après la suite de la thérapie, moi, je sens que c'est le passage le plus traumatique, puisque c'est l'homophobie expérimentée à chaque jour qui est plus souffrante. De réaliser que rien n'avait changé, que j'étais toujours aussi attiré par les hommes, toujours pas attiré par les femmes. C'est une genre de bataille personnelle pour essayer de se délivrer soi-même. Puisque j'essaie d'explorer toutes les amies possibles pour ne pas être gay, puisque j'étais vraiment convaincu que c'était mal. La deuxième thérapie, qui était encore un exercice, puisque moi, j'étais vraiment convaincu que c'était un esprit, comme ma communauté. Je l'ai eu à 16 ans avec la même personne. Donc, j'ai battu tout seul, si vous voulez, pendant de 12 ans à 16 ans. En essayant de jeûner, je mangeais pas pendant des jours, en essayant de, tu sais, je priais tellement longtemps, là, je lisais ma Bible, des choses comme ça. Puis à 16 ans, je me suis dit, bon, ouais, peut-être que c'est juste qu'à 12 ans, ça a pas marché pour quelques raisons, donc je suis retourné par moi-même, je suis resté à Québec, dans ce temps-là, je suis allé à Montréal en secret, puis je suis retourné dans un autre groupe à 18 ans, en Ontario. Ça avait pas marché avec le prophète, puis d'essayer avec un autre groupe. C'était pas mal le même genre. Je pense pas qu'il y avait de l'huile d'olive. C'était pas un prophète, c'était plus un groupe qui priait ensemble. Il me criait pas tant dans les oreilles aussi, c'était moins violent.
Mais ils ont tellement rentré ça dans la tête que c'est lui-même qui allait vers les exorcismes.
Il l'a même pas dit à ses parents.
Et c'est ça, c'est lui-même. Bien, en passant, une autre petite nuance, petite observation, on dénonce souvent avec raison, puis on va continuer à le faire, le radicalisme ou l'extrémisme chez les musulmans.
Ouais.
En passant, les juifs orthodoxes, mais les chrétiens aussi, là. Tu sais, nous autres, on est chrétiens au Québec. Catholiques, ça fait partie du christianisme. Tu sais, il y en a aussi des radicaux puis des extrêmes dans la religion chrétienne. Vous en avez un exemple.
Et puis moi, ce qui me brisait le cœur le plus en entendant parler, c'était d'imaginer un petit gars qu'entre 12 ans puis 16 ans, il jeûne pendant des jours de temps, il passe des heures par jour à prier et à lire la Bible pour essayer de se débarrasser de ses envies parce qu'il est convaincu que c'est un démon qui est en lui.
Puis
il
s'aimait pas.
Il m'a dit rien de pire que d'être un homosexuel homophobe. Parce que tu te détestes, toi.
Alors, comment il s'en est sorti ensuite?
Son coming out, à un moment donné, écoute, à 18 ans, il a fait sa troisième thérapie en Ontario. C'était le même prophète des deux premières thérapies, ça n'avait pas fonctionné. Il s'est dit, c'est lui le problème, je vais aller avec une autre thérapie, t'es allé en Ontario. Ça n'a toujours pas fonctionné. Comment en es-tu venu à réaliser que finalement, tu étais normal?
Ben, ça a été quand même un long processus. Le plus lourd, c'était l'homophobie que je portais avec moi à chaque jour, qui était très, très forte. Puis ça a été un processus quand même d'un an, deux ans là, de m'en défaire complètement. Plusieurs épisodes dépressifs quand même sérieux. J'ai pensé au suicide. Donc, je pense que de me rendre là, ça m'a dit, bon, là, il faut que tu essayes d'autres choses. Quand j'étais prêt d'en parler autour de moi, j'avais vraiment accepté dans mon cœur que j'étais gay et que j'étais bien avec ça. Donc, oui, c'est sûr, c'était difficile de voir la réaction des gens chrétiens, mais c'était surtout libérateur, puisque c'est un secret que j'avais gardé pendant des années. Puis enfin, de l'assumer puis de leur dire, c'était vraiment très, très libérateur. Puis ça m'a permis de commencé à créer un autre réseau de gens qui m'acceptaient, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui, des gens chrétiens, là, qui m'ont pas accepté quand je me suis accepté.
Là, on a parlé du prophète, donc, radical de cette église-là, pentecôtiste. On a parlé de lui, ses démarches. Parle-moi de ses parents, là.
Ouais.
Parce que ses parents, là-dedans, là, à la fin, c'est rendu que c'est lui-même qui se rendait pour les exorcismes, thérapie. Mm-hmm. Mais ses parents l'encourageaient là-dedans, là, eux autres, et s'ils sont encore dans la religion, est-ce qu'ils l'acceptent maintenant, comme il est? Comment ça fonctionne?
Et en fait, vous allez l'entendre, là, c'est surtout difficile avec sa mère. Surtout.
Encore aujourd'hui.
En fait, je vais laisser témoigner de ce qui est arrivé avec sa mère.
Ça a été quand même difficile. Là. Ça l'est encore. C'est pas un sujet qu'on aborde. C'est un sujet tabou, mais c'est pas la chose la plus facile. Mais on essaie de se focusser sur qu'est-ce qui nous rassemble. Je restais dans une maison avec mon ex. Ma mère voulait pas venir dans la maison. Mon père est venu, par exemple. Mais ma mère, là, elle voulait pas venir dans la maison, qui était comme ma première maison un peu. Puis elle voulait pas qu'on vienne, en fait, que mon ex vienne chez elle. Ça m'a vraiment frustré, par exemple.
On sent l'émotion, ouais. Mais sa mère va pas chez eux.
Non, ben en fait, quand il habitait avec son ex, là, elle a jamais voulu aller
maison,
chez lui.
Il y avait une maison avec son chum, puis sa
voulu
mère
ne
mettait pas les pieds dans sa maison.
Ni dans la maison, ni puis ton ex viendra pas chez nous non plus, au moment où il sortait avec. Fait que finalement, elle a jamais rencontré son conjoint. Puis j'ai demandé, penses-tu que ça va changer pour les années à venir? Penses-tu qu'à un moment donné, elle va en venir à... Puis il dit, je pense pas. Je perds pas trop de temps à espérer parce que je pense pas que ça va arriver.
Mais je remarque une affaire là-dedans. Là, il trouve ça triste parce que sa mère est pas allée dans sa maison où lui, il vit en couple. Ça veut dire que lui, il était prêt à accueillir sa mère.
Oui, c'est ça le pire.
Donc, il
c'est
a toujours bien pardonné, lui. Il a toujours bien passé par-dessus ce que sa mère lui a fait subir avec tous ces exorcismes-là, puis prophète. Il était prêt à dire, « Maman, viens à maison. »
Ben oui, il l'acceptait quand même. Puis le pire, c'est que lui, il a un petit frère, puis son petit frère a quitté l'église à peu près au même temps que lui, puis il est hyper proche de son petit frère. Mais il y a aussi un grand frère qui est encore un membre très actif de cette église-là, et il lui parle plus du tout.
Okay,
il
n'y
a plus aucune
déchire.
Relation.
Ben, c'est malheureusement souvent le cas quand on parle des sectes ou des affaires de même, quand il y en a d'autres qui suivent pas la ligne, ça brise et ça déchire une famille.
Puis là, je voulais savoir essentiellement, aujourd'hui, Gabriel, est-ce que tu te considères comme étant athée?
Je suis pas athée, je suis pas chrétien, pantoute. Vraiment pas, je suis aucunement chrétien, j'ai aucune appartenance à cette religion-là, pas du tout, ce qui est tellement loin de mon adolescence. Aujourd'hui, j'ai vraiment ma propre spiritualité que j'ai développée avec le temps. T'sais, pour moi, la spiritualité, c'est juste une manière de faire du sens des grosses questions qu'on peut pas répondre. Je l'ai développée avec moi-même. J'ai ma propre créativité là-dedans. Puis c'est beaucoup plus personnel qu'avant.
Ouais, on le blâme pas. Il y a de la misère un peu avec les chrétiens puis avec tout ce qu'il a vécu dans son passé, mais on peut quand même apporter la nuance qu'on fait quand on critique les radicaux musulmans en disant que c'est pas ça représente pas l'ensemble de la communauté musulmane. Ce que Gabriel a dénoncé puis ce que tu nous décris, ça représente pas l'ensemble des chrétiens.
Non, absolument pas. C'est une forme de radicalisme.
Dans la majeure partie, à l'intérieur même des églises catholiques et autres, c'est peut-être autre chose. Là, je connais pas tous les détails, mais dans la majorité des pays chrétiens, c'est pas comme ça que ça se passe.
Non, puis une réponse que j'ai beaucoup aimée de lui, c'est quand j'ai demandé, quand tu vois des gens autour de toi qui sont des radicaux, là, puis qui parlent de la chrétienté ou de cette religion-là de manière très, très extrême, c'est quoi ton sentiment? Puis il dit, évidemment, ça me fait froid dans le dos, mais il dit, si moi, au moment où j'étais un membre vulnérable, adolescent de cette église-là, si j'avais été traité avec mépris des gens autour de moi, ça m'aurait probablement encore plus enfoncé dans mon appartenance à cette église-là. Fait que ces gens-là, je vous invite à les traiter avec ouverture parce qu'ils ont peut-être besoin d'aide éventuellement pour s'en sortir.
Alors, il y a encore du décalage annuel. C'est mon expression. Le décalage horaire, vous savez c'est quoi? Le décalage annuel, c'est qu'il y a des gens qui vivent encore dans ce qu'on considère comme une autre époque. Maintenant, mais là, ça devient une question d'avocat, puis je suis pas juriste, là. Si on vous parle de ça aujourd'hui, si elle y a parlé à Gabriel, c'est parce que le gouvernement caquiste de la CAQ veut légiférer contre ça.
Ouais.
Mais compte tenu du fait que c'est souvent à l'intérieur des religions, comment ils vont faire? Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle juridique?
Dans la charte, parce avec que la liberté de religion, peut-être. Sauf que là,
c'est
une bonne question. Il faudrait poser à un constitutionnaliste, là, mais...
Mais les religions devraient jamais, on l'a déjà dit ici, souvent on critique, parce que c'est plus là, les musulmans fanatiques qui font les manchettes. La religion devrait jamais te permettre de faire des choses que la société civile et laïque ne permettent pas. Le code criminel, le code des lois, ça passe par-dessus, avant toutes les religions. On respecte les religions quand c'est pratiqué avec respect, il n'y a pas de trouble, mais la loi est supposée passer par-dessus, Donc, la CAQ va peut-être réussir.
C'est des mineurs aussi. Là.
Exact.
Parce que si c'est un mineur qui a été forcé, puis ça, d'après moi, ça dépasse une ligne.
Moi, la ligne où je mettrais, parce qu'effectivement, tu as raison, ça risque d'être extrêmement difficile de légiférer contre ça, parce que c'est une pratique à l'intérieur d'une religion.
Une croyance religieuse qu'on condamne avec raison, exact. Mais eux autres, ils sont là-dedans. Là.
Mais à partir du moment où ce sont des mineurs qui sont impliqués, je pense que là, il y a une bonne ligne où tu peux. En fait, il y a un bon endroit où tu peux tracer la ligne.
Ça, c'est qui pilote ce dossier-là?
C'est moi,
j'en ai pas en tête. Merci, Elisabeth. 25226, s'il y en a qui ont des commentaires. Je vous rappelle que ça se passait en Ontario, mais au départ, ici.
Ici, au Québec.
Est-ce que cette église pentecôtiste-là, avec ce pasteur-là, est encore active à Québec?
Bien, probablement, parce qu'il n'y a pas de loi contre ça. Là.